sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le mercredi 2 décembre 2009, Paul Andreu de l'Académie des Beaux-Arts a reçu au cours d'une séance sous la coupole son confrère Aymeric Zoublena, élu membre de la section d'architecture, au fauteuil précédemment occupé par Maurice Novarina. Canal Academy vous propose d'entendre l'intégralité de la retransmission de cette séance. Retrouvons sous la coupole de l'Institut de France Antoine Poncet, président de l'Académie, pour l'ouverture de la séance, puis Paul Andreu pour son discours de réception et Aymeric Zoublena pour son discours en hommage à son prédécesseur.
Madame le représentant du ministre de la Défense, messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, messieurs les élus, monsieur le président de l'Institut, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis pour l'installation d'Aymeric Zoublena, élu membre de la section d'architecture de notre académie le 25 juin 2008, au fauteuil précédemment occupé par Maurice Novarina. La parole est à monsieur Paul Andreu.
Madame le représentant du ministre de la Défense, messieurs les ambassadeurs, messieurs les ministres, messieurs les élus, monsieur le président de l'Institut, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, chers amis, cher Aymeric Zoublena, j'ai beaucoup hésité. Allais-je vous tutoyer ? Allais-je te vouvoyer ? En définitive, le tutoiement l'a emporté. Peut-être pour cette raison au moins que nous sommes à peu près du même âge, c'est-à-dire jeunes, n'est-ce pas ? Plein de désirs, encore, et d'espérance. Sans risque de me tromper, je sais où tu étais le 12 juillet 1998, dans ton stade. Celui dont tu avais gagné le concours 4 ans auparavant avec Macari, Reginbald, Constantini, et dont la construction s'était achevée quelques mois avant. 3 buts et la coupe, que peut rêver de mieux un architecte qu'une telle inauguration de son œuvre. Tu étais, vous étiez les architectes de la victoire. Les caméras de télévision n'en finissaient pas de tourner sur l'ovale du toit suspendu. Le Stade de France, c'est l'ouvrage pour lequel ton travail est le plus connu. Mais un autre, un peu moins connu du grand public et des médias, a une importance aussi grande. L'hôpital Georges Pompidou à Paris. Le premier s'est dessiné et construit vite, dans une presse mêlée d'allégresse, 4 années passées sans répit, encombrées de difficultés sans nombre, mais sans que le doute jamais s'insinue. Il faut construire, on va construire. Le second, au contraire, qui a occupé 14 ans de ta vie, du concours que tu as gagné en 84 à l'inauguration en 98, était-ce avant ou après les buts de Zidane, ça je ne sais pas. Cet hôpital a eu une histoire autrement compliquée. Dans le livre publié par Mardaga qui décrit tes travaux, pas un mot là-dessus. Une description simple, très technique, modeste. Que de doutes pourtant, de remise en cause, d'hésitations venant se briser sur toi comme pour éprouver la solidité de ton projet et ta détermination à le faire bien, pour le service de tous ceux que l'hôpital rassemble, patients, familles, soignants, dans une solidarité moins voyante que celle des stades, moins célébrée par les médias, mais tellement plus profonde. Pour toi, cet hôpital aura été l'ouvrage de formation, celui qui vous construit autant qu'on le construit. Sacrée année 98 quand même. Regardons en arrière, 25 ans de carrière. Cette année 98 marque le terme de 25 ans de carrière. Ce n'est pas rien. Et tu l'as montré bien clairement depuis, ce n'est pas tout. C'est en 73 qu'apparemment au moins tout commence, quand vous fondez Autran, Gruber, Macari et toi, l'ASCO, une association originale entre des architectes qui rassemblent leurs moyens sans fondre leur personnalité et qui peut-être, pour cette raison, durera. Vous travaillez tantôt ensemble, tantôt séparés, l'ASCO grandit, mais chacun de vous grandit encore plus qu'elle. Tu construis des logements d'abord, au centre, un centre commercial, des bureaux, presque tous situés dans des villes autour de Paris. Les villes que l'on appelle alors parfois encore nouvelles, et celles plus anciennes pour lesquelles, je ne sais pourquoi, on utilise ce mot aujourd'hui en le dénaturant « quartier ». Je ne pense pas qu'elle mérite ce mot de « quartier ». Elle mérite bien mieux. En 82, tu es invité à faire le concours d'un bloc chirurgical. L'administration en charge de la construction des hôpitaux veut les changer, consulte d'autres architectes. Ce sera une longue période, un effort de conception et de création continue qui donnera son visage nouveau à l'hôpital, plus technique, plus complexe dans ses réseaux, mais plus soucieux aussi de relations entre les personnes et la dignité de chacun. On s'inspire des grands exemples étrangers, comme le Mackenzie à Edmonton, comme l'immense polyclinique d'Aix-la-Chapelle, l'hôpital Robert Debré à Paris, dû à Pierre Riboulet, et l'hôpital Georges Pompidou seront les grands exemples français. Tu gagnes donc le concours en 1982 de ce qui s'appellera le bloc opératoire du professeur Bismuth. Il te dira après le concours pourquoi il avait voté pour toi. Il avait aimé cette jolie courbe que tu avais mise au bout d'un couloir. Tu l'as construite. Désormais, c'est une part importante de ton activité que tu consacres à l'étude et à la construction des hôpitaux, à Paris, à Nîmes, à Nantes, avec toujours le même souci d'en faire des lieux accueillants, ouverts sur la ville, et qui en soient à tous les égards le prolongement. Avec toujours la même attention portée aux besoins et aux espérances de chacun de tous ceux que la maladie rassemble. Comment diminuer les trajets quotidiens, parfois très longs, des infirmières? Où placer leurs zones de détente? Comment dessiner des lieux d'attente des consultations pour qu'ils n'accroissent pas la tension et l'appréhension, mais aussi l'ennui, la fatigue? Dans ces lieux où la technique est toujours plus fréquente, efficace, exigeante, comment soignera-t-on les personnes autant qu'on combattra leur maladie? L'architecte, tu le dis, y est sollicité de toutes parts. On attend de lui 1000 choses, grandes ou minuscules, et par-dessus tout, une qualité bien inégalement distribuée, la modestie. La modestie, pas la médiocrité, bien sûr, ni l'absence d'ambition. La modestie qui est de règle, ou devrait l'être, quand il s'agit de servir les autres, et singulièrement ceux qui sont confrontés à des difficultés qui les dépassent. Que signifierait pour eux de grands gestes adressés à d'autres par-dessus leur tête, sinon une exclusion supplémentaire? Logements, hôpitaux, mais bientôt d'autres programmes. Des établissements d'enseignement, des sièges sociaux, des bureaux. Des ouvrages différents qui appellent des réflexions et des formes nouvelles grâce auxquelles ton travail s'approfondit, se confirme, se développe. De 89 à 93, tu étudieras et construiras le pôle universitaire d'Ilkirch, dans la technopole de Strasbourg. C'est le rassemblement dans un même ensemble de 5 unités scientifiques, distinctes, mais qui doivent pouvoir évoluer librement et marquer leur identité. Cela aurait pu t'inciter à les disperser. Tu les rassembles dans une construction unique, dense, qui se développe autour d'un espace central libre. L'analogue, dis-tu, la réinterprétation de ce quadrilatère central autour duquel les collèges anglais s'organisent. Car là encore, même si cette exigence n'est pas la première dans le programme, tu la juges primordiale. Il faut qu'étudiants et enseignants de diverses disciplines ne s'ignorent pas. Il faut qu'ils se rencontrent, qu'ils aient une chance de se rencontrer. Même si les emplois du temps des uns et des autres réduisent cette chance, même si certains, pleins de bon sens, mais sans espoir, la juge négligeable. Ta manière de construire s'affirme et s'affine. L'acier, le verre, les panneaux métalliques donnent au bâtiment beaucoup de précision et servent ta recherche calme de la clarté et de la lumière. L'école des mines de Nantes, plus tard, de 92 à 94, puis le lycée de Créteil, te permettront de reprendre ces thèmes et de les développer de manière différente. Il y a des années bénies. C'est en 89 aussi que tu entames deux ouvrages importants, le centre de formation d'IBM à Marne-la-Vallée et l'immeuble de la Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé de la ville de Paris, la DAS, au bord de la Seine, face au Jardin des Plantes et à la gare d'Austerlitz, au coin de l'avenue Ledru-Rollin. Signalons pour la petite histoire que ce bâtiment était destiné à l'origine à la préfecture de Paris, toujours logé pour l'instant dans la tour de la Prade à Sully-Morland. Un conflit survenu en cours d'étude entre la mairie de Paris et le ministre de l'Intérieur de l'époque. On a changé la destination. C'est ainsi que l'enfance et la santé ont gagné d'être logés face à la Seine dans un bâtiment original. Ces deux bâtiments sont des ouvrages importants et difficiles. Le premier par son programme, le second par son site. Dans le premier, c'est de la difficulté même à laquelle tu dois faire face. Comment organiser efficacement à l'intérieur d'un parallélépipède dense des circulations nombreuses et différentes dont la sécurité exige qu'elles soient bien séparées, que tu tires l'originalité du bâtiment, des passerelles minces, élégantes, qui découpent l'espace en diagonale. Dans le second, terriblement contraint par l'angle dur de l'avenue Ledru-Rollin et par l'exiguïté du couloir devant la façade qui regarde la Seine, tu crées un atrium étroit sur toute la hauteur du bâtiment, un espace de transition apparemment, comme ceux qu'ont inspiré dans les années récentes la recherche d'économies d'énergie. Mais non, on s'aperçoit qu'il s'ouvre le matin et se ferme le soir. Ce qu'on a cru être sa façade est une porte en fait. Une porte immense, démesurée, dont le déplacement latéral ouvre l'angle du bâtiment en évitant tout encombrement du trottoir. La difficulté ici encore est l'origine du projet. Mais n'en est-il pas toujours ainsi ? Ce que nous appelons le fonctionnalisme et le contextualisme sont des attitudes nécessaires, honnêtes, intelligentes. Ce ne sont pas des théories à elles seules, comme on l'a dit et redit parfois. Seulement, des bases solides pour l'architecture la plus libre et la plus imaginative. Impossible d'évoquer tous les ouvrages que tu as construits. Plus impossible encore d'évoquer toutes les études que tu as faites à l'occasion de concours. Elles font pourtant partie de ton œuvre. Pour toi, comme pour beaucoup d'architectes, elles sont inégales, bien sûr, et les jurys ont plus d'une fois raison de ne pas les retenir. Mais pas toujours. Il y a des idées qu'ils ne voient pas, ou se refusent à voir. Certaines parce qu'elles ne se dégagent pas encore assez clairement, qu'elles ne sont que des promesses trop vagues. Mais d'autres aussi parce qu'elles heurtent leurs propres pensées et vont au-delà de leur imagination. Idées dont on espère qu'elles renaîtront, un jour plus fortes, mais le plus souvent perdues. Regrets que le temps finit par effacer. La vie d'un architecte en est pleine. J'imagine que le projet d'un pont habité au-dessus des voies ferrées à Massy fait partie de ceux que tu regrettes. Une arche de 250 mètres, associant une gare, des bureaux, des commerces, liant des espaces écartelés, composant un paysage. Ce projet rassemblait, à un état encore embryonnaire, beaucoup de tes préoccupations. C'était un ouvrage d'art. Tu en as construit un, avec bonheur. Le pont Gustave Flaubert à Rouen, dont on dit qu'il est le pont levant le plus haut d'Europe. Un autre ouvrage semblable, celui de Bacalan-Bastide, est resté, à ton grand regret, à l'état de projet. Tu aimes les ouvrages d'art. Mais celui de Massy, c'était davantage. C'était un espace fonctionnel et technique, bien conçu, mais encore et surtout un ouvrage essentiellement urbain. Urbain, voilà ce qui est important pour toi. Les mots avec lesquels tu décris tes projets le disent, leur forme et leur organisation le montrent. La référence à la ville, le respect, le souci de la ville sont à tout moment présents dans ton travail. C'est par l'urbanisme, comme beaucoup d'architectes de ta génération et de la suivante, que tu as commencé. En 67, quand tu termines tes études d'architecte avec un deuxième Grand Prix de Rome, sans doute seras-tu le dernier reçu ici de cette espèce qui autrefois y fut si nombreuse. Et quand tu termines les études d'urbanisme que tu as fait par ailleurs, après un temps dans l'agence de Raymond Lopez, tu vas rejoindre ceux qui travaillent dans et pour les villes nouvelles. C'est alors un monde en effervescence, traversé de désirs et d'enthousiasme. À la tête de l'entreprise, il a de fortes personnalités. ceux que l'on appelait les grands serviteurs de l'État, de l'ouvrier, Millet, Goldberg, tant d'autres. Est-il vrai que, survolant en hélicoptère avec Paul Delouvrier la région parisienne et découvrant son développement anarchique, le général de Gaulle lui a demandé de mettre de l'ordre dans ce bordel? Quoi qu'il en soit, Paul Delouvrier s'y est employé, en s'entourant d'un groupe de fonctionnaires intrépides. Nouveau réseau de transport, ville nouvelle, 5 au total, Évry, Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines, Marne-la-Vallée et Melun-Sénart, dont chacune devait accueillir 500 000 habitants. Leur ambition commune est immense, leur détermination et leur désintéressement admirables. Plus tard, bien plus tard, quand tant d'habitants de la région parisienne auront bénéficié dans leur vie quotidienne de ces bouleversements, il sera de bon ton de les critiquer à l'envi, de stigmatiser les erreurs commises par ceux que l'on nommera désormais, et pas seulement en urbanisme, les technocrates. Et il est vrai qu'elles ont été plus nombreuses, ces erreurs, bien plus nombreuses, c'est certain, que celles de ceux venant ensuite qui ont beaucoup parlé et n'ont pas fait grand-chose. Mais passons. Pour mener à bien ce désir de conception nouvelle, il faut toutes sortes de gens. Il faut en particulier des architectes qui acceptent des missions nouvelles, assez éloignées des normes. Beaucoup de jeunes architectes y sont prêts, lassés eux-mêmes de voir que rien ne bouge, que se perpétue l'urbanisme du chemin de grue et que l'on produit des logements en nombre dans une prolifération inorganique. On leur fait confiance, ils se mettent au travail. En 67, tu es un de ceux-là. Tu as déjeuné avec Jean Delus, c'était un hasard. Il t'a proposé de t'enrôler, ça t'intéresse, mais tu hésites. Fin Silbert, que tu croises, te l'affirme sans embâche quand on vous propose d'entrer à l'IAURP, Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, dont il fait lui-même partie. On accepte sans discuter. Bien, d'accord. Et te voilà au travail à Marne-la-Vallée. Tu es en charge des études du centre urbain régional. Au cours de soirées publiques houleuses, tu apprends à affronter les critiques venues de tous bords, à exposer tes schémas urbains, à écouter les élus, les opposants, les représentants des diverses associations. Rue d'école pour un architecte encore jeune. Pendant presque 15 ans, tu poursuivras ce travail d'urbaniste à Marne-la-Vallée. Tu cherches, tu apprends, tu agis. Dans le même temps, tu deviens professeur. Apprendre et enseigner, cela va ensemble. C'est, ce devrait toujours être, un seul processus continu. Durant plus de 20 ans, tu as été professeur à Paris-Villemain, une des nouvelles écoles d'architecture née dans l'effervescence des années qui suivirent mai 68. Tu y parlais d'architecture proliférante, d'habitat pour le plus grand nombre, de macrostructures urbaines. Tu disais l'importance d'imaginer l'espace, mais aussi d'apprendre à le construire. Tu t'es battu pour que le dessin, les croquis à la main, reste malgré l'informatique un outil essentiel dans l'enseignement de l'architecture. Tu n'as abandonné cette activité qu'à regret, quand le projet du Stade de France, venant s'ajouter aux autres, t'y a contraint. L'urbanisme, tu ne l'abandonneras jamais. Il a marqué toute ta carrière, ta pensée a pris forme avec lui. Un temps, l'intérêt général s'est détourné de lui. Durant l'époque des grands projets, c'est la volonté de marquer la ville et le temps qui a dominé, en construisant de grands équipements, en faisant deux des monuments. À Paris d'abord, pendant plus de 20 ans, du musée d'Orsay au musée des Arts Premiers, dans beaucoup de villes de France aussi, par un effet d'entraînement. C'est un cycle qui s'achève avec une nouvelle prise de conscience de l'urgence de faire face aux nécessités de la vie quotidienne de populations urbaines en augmentation constante, de mieux gérer les ressources naturelles, de mieux répartir les profits. Au grand projet succède l'idée du Grand Paris, projet emblématique, mais qui cette fois a été précédé de plusieurs autres projets en France, moins voyants, moins célébrés, plus modestes et pour le moment au moins plus réels. Une grande consultation a été lancée. Ceux qui craignaient, j'en étais, qu'elle ne soit comme d'autres projets urbains ambitieux que de ces dernières années qu'une foire aux vanités de plus, avaient tort. Le temps était court, mais le travail intense d'un grand nombre de spécialistes au sein de chacune des 10 équipes a produit non pas un projet, qui ne pourrait être encore que médiocre, et un projet, cela ne peut être qu'un but que l'ambition repousse toujours un peu plus loin, mais une grande quantité d'idées, d'analyses et de réflexions, à partir desquelles l'action, les méthodes, des structures et une organisation, enfin, toutes provisoires et améliorables, bien sûr, peuvent être mises en place. C'est un grand renouveau du sérieux et de l'enthousiasme auquel nous avons assisté. Il a la même générosité que celui que j'évoquais précédemment. Il répond à un désir semblable d'améliorer les conditions de vie de tous. Comment éviter qu'il se perde ? Qu'à des mois d'imagination succèdent des mois de stagnation ou de recul, qu'il retombe à la fin dans la médiocrité. Une seule chose est certaine, il faut inventer. Plus que des modèles à imiter, c'est cette certitude que nous donne l'histoire. Les habits des grands serviteurs de l'État sont hors d'usage. Plus personne ne peut les porter, sinon pour reproduire seulement leurs erreurs. Les grands travaux, faits à grand renfort de machines et d'argent, ne garantissent plus aucun progrès. Il faut, pour tout et partout, inventer. Quel bonheur ! C'est dans cette éclaircie d'espoir et de passion générale pour l'urbanisme, cet urbanisme auquel tu as consacré tant de ton travail et de ta vie, que tu es reçu dans notre maison. Tu le sais déjà, il arrive que l'espoir se trouve désorienté dans les grandes perspectives que l'immortalité dessine et qu'il s'épuise. Tu connais déjà cette capacité que nous avons tous ici à contrôler nos passions et à ne pas leur donner libre cours, à les oublier, parfois dans le confort pourtant bien peu douillé de notre habit noir et vert. Oui, tout cela, certainement, tu le sais, on te l'a dit. L'espoir que j'exprime, au nom de tous, j'en suis convaincu, c'est que tu fasses mentir ceux qui te l'ont dit et que tu nous aides tous à rester immortellement jeunes, dans une académie, elle aussi, immortellement jeune, pleine d'espoir, pleine d'ambition. Au nom de tous, sois le bienvenu.
Je remercie beaucoup Paul Andreu de son introduction au discours de notre cher ami aussi, je l'espère, Emery Zoublena. Tu as la parole.
Il y avait du soleil le 2 décembre à Austerlitz. Aujourd'hui, dans ma tête, il y a quand même un peu de brouillard. Cher Paul Andreu, à moi de choisir entre le tu et le vous. Par effet de symétrie, et parce que l'exercice est plaisant, j'ai décidé pendant quelques instants de vous voyez. Venant de l'architecte que vous êtes, le regard attentif, aigu et amical que vous avez porté sur mon parcours revêt pour moi une importance singulière. Vous écoutant évoquer quelques-uns de mes projets, je revivais en esprit quelques-unes de ces charrettes que nous avons tous connues. Je m'en sentais tout ragaillardi. C'est donc avec l'ardeur et l'enthousiasme juvénile que je m'apprête à servir cette académie éternellement jeune. Merci, chers confrères, de m'avoir accueilli. Merci, cher Andreu, des belles paroles que tu as prononcées. Madame le représentant de Monsieur le ministre de la Défense, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'Institut, Messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, chers amis. Un architecte s'exprime davantage avec la pierre qu'avec les mots. Ce sont les premières paroles de Maurice Novarina lorsque le 5 décembre 1979, il prononce l'éloge d'Albert Laprade auquel il succède. Albert Laprade, le premier moderne de ce troisième fauteuil, souligne-t-il à dessein. Puis, avec humour, il nous confie sa crainte de ne savoir égaler le talent de l'avocat Olivier Patru, à qui l'on doit cette tradition d'éloge académique. En peu de phrases, Maurice Novarina dresse le portrait de l'homme qu'il est. Un architecte engagé dans la modernité, peu enclin aux envolées lyriques. La crainte que j'éprouve à mon tour en ce moment, c'est de ne savoir vous exprimer toute la joie et l'émotion que je ressens à l'honneur qui m'est fait d'être parmi vous. En évoquant son œuvre à grands traits, pourrais-je vous faire partager le plaisir que j'ai à parler de Maurice Navarina et dire mon regret de ne savoir faire revivre dans la totalité de son être cet homme que sa famille et vous, qui l'aviez élu dans votre compagnie, avez aimé. Revivre, dis-je. Cette douloureuse espérance inscrite au cœur de l'homme dont Rilke parle ainsi. Il est étrange de ne plus habiter la terre, de ne plus suivre les usages à peine appris, de donner ni aux roses, ni aux choses dont chacune était une promesse, la signification de l'avenir humain. Parler de Maurice Navarina, c'est jeter un regard sur une période de plusieurs décennies parcourue de bouleversements profonds. Une période durant laquelle les architectes connurent l'inquiétude d'une commande rare, suivie pour certains de la responsabilité redoutable de reconstruire les villes dévastées, d'appliquer enfin dans l'urgence et dans la réalité des chantiers les idéaux du mouvement moderne auxquels la plupart avaient adhéré avec enthousiasme. Ses lointaines racines italiennes, la vallée de la Valsesia, dont son grand-père Paul Navarina émigrera vers 1870, son milieu familial, son énergie, tout destine Maurice Navarina à devenir architecte. Un diplôme d'ingénieur de l'École spéciale des travaux publics en poche, il décide de faire des études d'architecture, double formation qu'il revendiquera hautement plus tard lorsqu'il sera professeur à l'École spéciale d'architecture et dans l'une des unités pédagogiques qui naquirent en 1968 dans l'effervescence, l'enthousiasme et le bouleversement brutal de l'ancienne École des Beaux-Arts. En 1928, il entre dans l'atelier de Jean-Baptiste Maton, successeur de Charles Nicot et d'Henri de Glanes, l'architecte du Grand Palais, trois Grands Prix de Rome. De Maton, qui fut d'abord son professeur à l'École spéciale des travaux publics, il dira « C'était une intelligence fondée sur le bon sens qui rend toute chose simple. Un maître soucieux de l'enseignement rigoureux qui savait laisser le champ libre à l'imagination, un pédagogue qui voulait développer chez ses élèves la sensibilité qui permet de donner à toute entreprise humaine ce qui en fait la nécessité, un supplément d'âme. » À l'École des Beaux-Arts, il apprend à composer, à organiser l'économie élégante du plan, à exprimer le caractère d'un édifice, toujours prestigieux, érigé dans des sites enchanteurs. Rien ne le prépare à penser l'habitat du quotidien, l'habitat du plus grand nombre, difficile et brûlant problème qu'il aura à résoudre quelques années plus tard. Pendant qu'il suit l'enseignement de son professeur Maton, il travaille chez Auguste Perret, son maître à penser. Il en retiendra son rationalisme constructif, son ossaturisme, mais aussi sa volonté de voir grand. Ces années de formation, marquées par la crise de 1929, sont des années d'intense réflexion intellectuelle où s'affirme le style international, l'architecture monumentale au service d'une propagande d'État, les doctrines nouvelles en matière de développement urbain, la ville fonctionnelle et surtout la fascination de la tabula rasa. Sujet de débats passionnés qui anime en 1933 à Athènes les congrès internationaux de l'architecture moderne. Les architectes attendent des politiques des engagements fermes pour mettre en œuvre leur vision de la ville future, tant sur le plan formel, densité ou étalement, que sur le plan social, production de logements de masse. Débat auquel s'opposent avec une même vigueur les tenants d'une stratégie régionaliste en réaction contre une modernité radicale et une fonctionnalité désincarnée. Dans l'éblouissante lumière des utopies généreuses, la sombre clarté des architectures de propagande et la foi dans les progrès techniques, les affrontements de doctrines sont d'une autre violence que ceux qui parcourent notre temps. Maurice Navarina prend part naturellement à ces débats, même s'il marque une certaine réserve envers théorie et utopie parce qu'il a déjà l'esprit occupé par les problèmes de chantier. En effet, à 20 ans, encore étudiant, il dessine, calcule, rédige des devis et suit des chantiers pour son père, Joseph Navarina, entrepreneur à Thonon. Cette immersion dans le quotidien de la construction lui donnera cette assurance et cette sérénité que tous le reconnaîtront plus tard. Pour lui, construire n'est pas un défi en soi. C'est l'aboutissement naturel du projet, la pensée traduite en pierre. Réflexion dans la droite ligne des Siam pour qui le fait de construire est une activité élémentaire de l'homme intimement liée à l'évolution et au développement de la vie humaine. Sa véritable carrière d'architecte commence par des projets d'église, construction aux dimensions modestes au regard de ce qu'il réalisera plus tard. C'est une chance et une grande responsabilité d'avoir si jeune à concevoir des espaces où doit s'exprimer d'abord la transcendance. Claude Parent en dit ceci. L'église était l'un des derniers refuges de l'architecture, l'un des derniers programmes qui permettait à l'architecte d'obtenir par transcendance des formes la spiritualité. Au milieu d'un monde où la boîte à habiter s'est tellement appauvrie que l'architecte en est réduit à un rôle de constructeur de bâtisses en abandonnant tout esprit plasticien, l'Église représente un dernier bastion de défense, conclut Claude Parent. Valère, le fils aîné de Maurice Navarina, écrivain, dramaturge, metteur en scène, peintre, qui bâtit en un soir des architectures fugaces, me parle du Sacromonte de Varallo, Nouvelle Jérusalem que le jeune Maurice connaissait et qui l'a certainement influencé. Véritable réinvention des lieux saints de Palestine où œuvrèrent durant un siècle et demi de grands architectes et artistes. À 26 ans, Maurice Navarina projette aux côtés de son père sa première église, Notre-Dame du Léman à Vongy. Par ses voûtes en tiers-point, son architecture est proche encore du gothique. Pierre Vallet, photographe, parle de la courbe dans toute sa splendeur, où la lumière crée l'atmosphère, où le bleu sécession, cher aux Viennois, inonde l'espace. En 1937, le dominicain Marie-Alain Couturier, acteur passionné du renouveau de l'art sacré, lui confie la réalisation de Notre-Dame de toutes les grâces sur le plateau d'Assy en Haute-Savoie. L'église sera consacrée en 1950. 13 ans ont passé. Il faut une grande constance et une longue patience pour être architecte, pour voir ses œuvres enfin achevées, enfin découvertes et parcourues par ceux auxquels elles étaient destinées. À Assy, Maurice Navarina s'entoure d'une pléiade d'artistes. Georges Rouault, Henri Matisse, Georges Braque, Fernand Léger, Jean Lursa, André Derain, Germaine Richier, Chagall et Bonnard. L'architecture des nombreuses églises qu'il construira ensuite va évoluer. Presque vernaculaire à la chapelle Notre-Dame de Prudence, construite dans le site grandiose du col du Liseran, d'une modernité encore académique à Audincourt. Il aborde les formes brutalistes dans l'église du château de la Duchère à Lyon et explore des structures nouvelles avec les voiles de béton mince à l'église de Villeparisis. À l'église Saint-André des Issureurs, Patrice et Catherine Navarina, architectes, remporteront 50 années plus tard le concours pour le clocher qui n'avait jamais été construit, complétant ainsi par une structure d'acier inox haute de 25 mètres l'œuvre originelle. Toutes ces églises seront des jalons majeurs dans l'évolution de l'art sacré. Construites alors qu'il n'a pas 40 ans, elles auraient suffi, selon Philippe Delfieux, à la gloire de Maurice Navarina. Pour ce dernier, l'architecte est un messager spirituel qui la charge de transmettre des valeurs symboliques. Devant Notre-Dame de toutes les grâces, Fernand Léger, admirant la fresque qu'il avait réalisée, disait « Il y a là, Maurice, quelque chose ». Maurice Navarina, homme d'une foi profonde et d'une culture théologique, montrant l'intérieur de l'église, répondit « Oui, Fernand, mais là, il y a quelqu'un. » Au sortir de la guerre, son activité va prendre d'autres voies et une autre dimension. Dès 1946, il travaille pour le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme et est nommé architecte en chef en Normandie, où il fait la connaissance de Pierre Mendès France, avec qui il restera très lié. Si dans ses premières réalisations, son architecture est encore, selon Bernard Marais, du type savoyard moderne, l'architecte en chef va entrer résolument dans l'aventure de la ville moderne prônée par la charte d'Athènes. Son talent d'architecte, dont il a déjà fait preuve, sa capacité à organiser ses équipes, sa formation d'ingénieur, son efficacité lui attirent la confiance des élus et des grands commis de l'État. Comme beaucoup d'architectes de sa génération, il affirme la nécessité d'une démarche rationnelle, analytique, presque scientifique, pour résoudre les problèmes d'urbanisme. Interviewé en 1955, il explique ainsi sa démarche. Je le cite. « Enquête préalable par un technicien qualifié, d'où l'urbaniste tirera projet pour l'urbanisation future, surface bâtie fonction de la densité et de la hauteur des immeubles, maison individuelle n'excédant pas le sixième de la surface des terrains, voie de circulation extérieure au quartier d'habitation, développement horizontal minimum pour limiter les frais de voirie, de distribution d'eau et d'électricité. » Cette assurance peut prêter à sourire aujourd'hui. Le journaliste a certainement simplifié les propos de l'architecte, mais il est évident que ce dernier a rompu avec l'enseignement des beaux-arts. Dans les plans qu'il dessine pour la ZUB de Novelle à Évreux, à Viry-Châtillon ou au village olympique de Grenoble, il applique l'ensemble des principes de la charte d'Athènes. La notion de tissu urbain, telle qu'on l'entend de nos jours, n'a pas cours. Pourtant, une lecture plus serrée des textes et un examen attentif des plans laissent percevoir que Maurice Navarina manifeste déjà une aspiration à une plus grande complexité urbaine. Il a pris conscience de la dérive dangereuse d'un urbanisme coupé de toute racine. Sans discours théorique, il est de ceux qui s'opposent à ce que Jacques Lucan appelle l'ordre ouvert. Certes, s'il loge les différentes fonctions urbaines dans des barres et des tours, il les dispose de manière à fragmenter l'espace et à l'organiser pour que naisse une vie communautaire dans ces nouveaux quartiers dont il a la charge. Au grand vide où le regard se perd, il substitue placettes, jardins de proximité et porte son attention au traitement des abords des bâtiments, conscient que ces espaces entre immeubles participent tout autant que ceux-ci à la qualité de vie. Il demande, ce qui n'est pas si fréquent, alors ces temps-là, à des paysagistes de les aider à les aménager. Comme il a fait quelques années auparavant, il s'entoure d'artistes renommés pour créer des lieux d'émotion dans ces nouveaux ensembles qu'il projette. Émile Alliot, plus tard, dira « Prendre poétiquement possession d'un lieu, c'est se soucier plus des espaces que l'on crée que de l'individualité des bâtiments eux-mêmes. » L'importance que Maurice Navarina attache à l'espace urbain et la sensibilité qu'il y exprime le conduisent en 1975 à imaginer pour la rénovation du centre historique de Thonon-les-Bains un tracé d'une totale liberté, générateur d'espaces contemporains inscrits en un désordre savant dans le tissu traditionnel. Il se bat pour conserver le monastère de la Visitation autour duquel il organise la nouvelle greffe urbaine. Maurice Navarina affirme qu'il faut mêler l'architecture à tous les arts, associer le souffle, l'esprit, le rythme, l'émotion des artistes à l'espace que doit animer l'architecte. « Sans le concours des artistes, dit-il, il ne sera pas possible aux villes futures, aussi scientifiques que soit leur élaboration, de relever ce défi essentiel, celui du bonheur. » Je lis, dans cet appel constant à l'art, une aspiration à un urbanisme moins épuré, moins désincarné que celui de son temps. Il parle de Venise, la ville nénuphar. Il nous dit combien il l'aime, cette ville toute de détours, faite de découvertes, d'épaisseurs successives, où le théâtre et la musique vivent à chaque coin de rue, et où, sur le quai des Esclavons, attendent toujours les dames de Carpaccio, lentes et lourdes à ravir. Dans ses diverses attitudes, Maurice Navarina illustre à merveille les propos d'Alain Gérard Slama. Chez tout architecte, dit-il, il y a toujours une part d'Hippodamos et une part d'Alberti. Hippodamos qui inscrit la ville idéale dans la géométrie d'une trame rigoureuse, Alberti qui, dans son ouvrage De re edificatoria, s'oppose à l'utopie de cette cité idéale considérée comme du rationnel, plaqué sur du vivant. Pour ma part, j'ajouterais ceci. La ville, conçue par l'urbaniste et réalisée par des architectes successifs, est le résultat de forces opposées. Elle est œuvre collective. Paul Andreu, dans son éloge d'Henri Bernard, le dit. Il n'y a rien de plus ambitieux, mais en même temps de plus obscur que le travail d'urbaniste. Ainsi, selon moi, les monuments qu'Oscar Niemeyer a édifiés ont à la fois magnifié et occulté le génie de Lúcio Costa, père de Brasilia, lui qui seul pourtant a fixé pour des siècles le tracé visionnaire de la capitale du Brésil. Maurice Navarina a pu réaliser lui-même de nombreux bâtiments dans les territoires qu'il avait en charge d'urbaniser. Logements inscrits dans une modernité qui s'exprime plus dans un rationalisme constructif que dans une plastique formelle. Ingénieur et architecte, son maître est, je l'ai dit, Auguste Perret. Pourtant, leur architecture va peu à peu évoluer dans la plus grande attention portée à la sculpture des façades, au choix des toitures plutôt qu'aux terrasses, au couronnement, aux modénatures, à l'emploi de matériaux diversifiés. Il s'affranchit des canons modernes et stéréotypés. Il imagine, pour les logements de la tour Super Italie, une forme inhabituelle, un volume circulaire, qui fait de cette tour l'un des bâtiments les plus remarquables du nouveau quartier du sud de Paris. On lui confie durant les années 50 et 60 des programmes prestigieux, le palais des festivités à Évian-les-Bains, le centre socio-culturel de Neuville-Annecy, la maison des arts et loisirs à Tournay-les-Bains, qui porte son nom depuis 2003. L'hôtel de ville de Grenoble, le centre nautique d'Évian, dont après un an d'études insatisfaits, il n'hésitera pas à mettre à la poubelle tous les dessins du premier projet, preuve d'une rare exigence professionnelle. Ce centre nautique, dont il refait tous les plans, est l'une de ses œuvres majeures. Dans cette réalisation inscrite avec finesse dans le paysage et d'une modernité toujours vivante, l'ingénieur et l'artiste Maurice Navarina se sont exprimés à part égale. Il montre dans tous ses projets qu'il étudie, puis réalise une profonde attention au site et un véritable talent pour s'y inscrire avec harmonie. De 1966 à 1973, il projette deux équipements publics importants, le palais des sports de Megève et avec son fils Patrice, le palais de justice d'Annecy. Durant cette même période, il remporte le premier prix du concours de l'ORTF pour le Centre d'information télévisé de Paris. Projet abandonné qu'il n'aura donc pas le plaisir de voir construit, mais qui vaudra à Patrice et lui de réaliser quelques années plus tard le centre de télévision Riyad en Arabie Saoudite. Il appelle Jean Prouvé pour réaliser la buvette de la source Cacha avec une structure porteuse, chef-d'œuvre de subtilité technique et de sensibilité architecturale. Cette modeste construction est l'un des témoins majeurs de l'architecture moderne, comme le sont les voiles minces de l'église de Villeparisis ou les auvents des gares de péage d'autoroute. Énergie et passion habiteront Maurice Navarina jusqu'au soir de sa vie. Il aimait ces moments rares où l'architecte doit expliquer, convaincre et faire sentir au jury tout ce que les dessins et les textes ne peuvent à eux seuls exprimer. Au terme de sa carrière, il était resté le même qui, quelques 60 années auparavant, écrivait à sa mère « Je ne suis vraiment heureux que si je suis content de mon art ». Maurice Navarina a été l'architecte d'une époque sûre d'elle-même, confrontée pendant 20 ans à des problèmes clairement énoncés. Logé dans l'urgence des milliers de familles, doter le pays des équipements qui lui faisaient défaut en appliquant des concepts urbanistiques et architecturaux, acceptés pour l'essentiel par les hommes de pouvoir et mis en œuvre par les architectes, ingénieurs et entreprises. Une phrase d'un haut fonctionnaire, André Protin, illustre cette époque. Je le cite. « L'urbanisme français doit être objectif, efficace, rapide et humain. Fini les discussions byzantines, les querelles de chapelle, dépasser les projets d'école, dit-il. Parce que les objectifs généreux de cette modernité furent oubliés et qu'aucun élixir de jouvence, aucun sérum de Bogomolets ne pouvait régénérer des concepts dénaturés, vint alors le temps des remises en cause. de nouvelles réflexions plus complexes et plus élaborées apparurent. Elles furent à l'origine d'opérations expérimentales inspirées de recherches avancées. La colline habitée de Moshe Chafdy à Montréal, le quartier de l'Arlequin à Grenoble, l'incroyable structure urbaine de Comberneau, les pyramides d'Évry. J'ai appris dans les villes nouvelles la richesse d'une pensée commune qui unit architectes, ingénieurs, économistes, paysagistes, sociologues autour d'un projet ambitieux et généreux. Comme les opérations expérimentales que j'ai citées, ces villes avaient pour source d'inspiration l'arrêt de l'extension des grandes métropoles et pour objet une vision sociale de l'habitat du grand nombre. Noyau dur de la réflexion urbaine de ces époques conquérantes. Pour des raisons trop longues à expliquer, l'Europe et les pays développés ont délaissé peu à peu cette problématique. Les tours de bureaux, objets superbes mais objets célibataires, sont devenus les pièces principales d'une nouvelle vision de la ville moderne. C'est s'illusionner de croire que le besoin de loger des masses humaines ne se pose plus à l'échelle de la planète. Les magnifiques quartiers d'affaires d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique masquent l'indigence architecturale des nouvelles cités populeuses, vastes urbanisations qui, jour après jour, couvrent des territoires immenses. Je ne parle pas ici des favelas, mais de ces entassements cubiques de logements construits encore aujourd'hui dans le monde, pauvres produits d'une industrie aveugle qui surgissent au pourtour des grandes cités, préparant à nouveau des lendemains désenchantés et lourdes menaces. Protéger la planète de l'activité désordonnée des hommes, sauver l'océan, préserver les sites magnifiques que la nature nous a donnés, économiser l'énergie sont les devoirs de notre temps. Ils ne peuvent être les seuls. Les architectes, les artistes doivent au même moment proposer de nouvelles visions pour loger les hommes, tous les hommes. Prendre le risque de nouvelles radicalités, ouvrir d'autres voies pour répondre vraiment dans la réalité poétique du monde à la nécessité de l'habiter. Je dis vraiment, car j'ai envers certaines utopies qui séduisent les médias plus qu'une réserve. Je crois bien sûr à la puissance créatrice de l'imagination qui éclaire des horizons, ouvre des portes secrètes que le raisonnement seul n'aurait su forcer. Mais je sais que l'utopie peut être aussi le refuge commode et séduisant pour fuir les questions véritables auxquelles il faut apporter très vite des réponses. Rudy Ricciotti exprime cela mieux que moi. Façonner le réel, c'est ça le romantisme. Échapper à l'utopie, puisque c'est elle le cauchemar, seule la transformation du réel est le grand projet révolutionnaire, dit-il. En d'autres temps et d'autres lieux, les hommes ont dû aussi créer dans l'urgence des villes qui répondaient aux besoins de tous et non seulement au désir de paraître des puissants. Chasser des terres émergées, les tribus qui peuplèrent dans le delta du Po, les îlots du Rivus Altus, le Rialto, ont bâti sur des langues de sable Venise, la Sérénissime. L'empereur Pachacutec et ses Incas, fuyant l'envahisseur, pressés par le temps, firent naître sur le promontoire rocheux qui unit Machu Picchu et Ayanapichu l'une des œuvres maîtresses de leur civilisation. Je sais bien que notre temps est autre, que la dimension des problèmes en change de nature. Je sais qu'il est vain d'espérer tirer de ces deux exemples magnifiques une solution aux questions qui nous sont posées aujourd'hui. J'en retiendrai cependant ceci. Ces hommes, avec des moyens qui étaient les leurs, ont su par leur génie construire dans des sites inspirés des villes qui n'ont pas détruit la nature, mais l'ont sublimée. Oui, notre temps a réalisé des œuvres remarquables, mais comment ignorer que sur notre planète persiste la lutte exténuante et souvent vaine contre les déferlements urbains, dévoreurs et destructeurs d'espace. Il y a, dans ce combat toujours recommencé, quelque chose d'un barrage contre le Pacifique. Nous ne sommes plus dans notre pays confrontés à des déferlements d'une telle ampleur. Ils sont d'une autre nature, entrées de villes déstructurées qui ternissent l'image des cités magnifiques, lotissements qui mitent le paysage, infrastructures routières qui le déchirent et contribuent à ce malaise diffus que suscite un urbanisme au fil de l'eau. Il y a 10 ans, l'université de Caen demandait à quelques personnes venues d'horizons différents d'imaginer le XXIe siècle. Dans un article que j'intitulais « La ville recentrée », je rappelais qu'aucun décret royal, impérial ou républicain n'avait jamais réussi à stopper l'extension continue des villes avec les conséquences que nous connaissons. J'imaginais alors qu'un courant inverse, spontané et imprévisible, naîtrait un jour, surgi du refus des migrations quotidiennes épuisantes et coûteuses, du rejet d'un environnement dégradé, de la nostalgie d'une urbanité perdue. Rien n'y résistait. Sous l'effet d'une attraction soudaine, le centre des cités était reconquis par les hommes. Dans ce reflux humain, les périphéries de pierre, de béton et de fer répandues depuis des siècles étaient aspirées par le creuset originel. Alors, seul, demeuraient aux alentours de la ville refondée quelques vestiges urbains abandonnés et dérisoires, recouverts peu à peu par une nature retrouvée. Mutation radicale et improbable, pur exercice d'imagination, pensais-je à l'époque, mais qui portait en germe l'idée d'un ressourcement et l'aspiration à une urbanité différente de l'étalement amorphe que nous subissons. Or, je viens de lire dans un article du Monde que l'INSEE constate les premiers signes d'un retour du flux démographique vers les centres-villes. De même, se manifeste depuis peu un ralentissement significatif de l'extension des zones périurbaines autour des 5 plus grands pôles urbains, Paris, Marseille, Aix-en-Provence, Lyon et Nice. Il faut donc réfléchir aux conséquences de cette mutation. Accepter, si elle se confirme, que les centres des grandes métropoles évoluent vers une plus forte densité. Celle-ci sera différente dans sa forme et dans son contenu, sans méconnaître les transformations sociales qu'elle entraînera. L'entropie urbaine, le désordre maximum ne sont pas inéluctables. Il faut se convaincre que les agglomérations humaines, à un certain stade de développement, sauront s'accroître et s'organiser dans une autre logique que celle de l'extension ininterrompue. Malgré quelques méandres et mirages dissipés, l'ambition intellectuelle et le défi politique amorcé par le président de la République s'inscriront-ils dans cette voie ? En réfléchissant à ces questions, notre compagnie, avec son génie propre, pourrait à son tour promouvoir cette certaine idée de l'homme et de la cité dont parlait Maurice Novarina. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance d'installation de l'architecte Aymeric Zoublena au sein de l'Académie des Beaux-Arts qui s'est déroulée le 2 décembre 2009 sous la coupole de l'Institut de France.